Il est là, Christian Page, Mythes et Complots.
Salut Bernard.
J'aime vraiment finir la semaine avec toi, je te le dis. Oui. J'aime vraiment beaucoup ça. Et aujourd'hui, t'as toujours une belle liste de sujets. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Des fois, il y en a qui te parlent plus que d'autres.
Oui.
Là, le premier, mettons, nos ancêtres, les extraterrestres, point d'interrogation.
Mais écoute, ici, on est vraiment dans un domaine de science. Hein? C'est-à-dire que lorsque l'on parle de l'apparition de la vie sur la Terre, qui est apparue il y a à peu près 1 milliard d'années, les scientifiques favorisent deux hypothèses. La première, c'est le fait que la vie serait apparue spontanément d'elle-même.
Le Big Bang, là, hein?
Non, ça, c'est la création de l'univers.
Ah, oui,
on parle de la vie.
Pardonne-moi.
Il y a une expérience qui a été menée dans les années 50 par un type qu'on appelle encore d'ailleurs expérience de Miller, un type qui s'appelait Stanley Miller, qui a démontré qu'en dans une soupe, une espèce de soupe originelle qui contenait des éléments, du fer, du carbone, etc., si on prenait cette concoction-là, et qu'on envoyait de l'électricité, lui a réussi, en plaçant ça dans un ballon, à produire des acides aminés. Donc, pour l'expérience de Miller, on disait, ben voilà, la vie dans cette soupe originelle, on le sait qu'à une époque, la Terre était bombardée continuellement d'orages, donc les éclairs, la foudre qui frappait l'eau, parce qu'il faut se rappeler également qu'à l'époque, il y avait très peu de terre qui émergeait des eaux. Hein, la Terre était pratiquement un océan en lui-même. Mm-hmm. Il y avait des cheminées thermales au fond de la mer, et donc c'est toute cette combinaison, donc la chaleur, les éléments qui se trouvaient dans l'eau, plus les décharges électriques de la foudre, qui auraient produit une espèce d'effet chimique produisant les premières acides aminés, donc le début de la vie. Mais cette expérience-là a été remise un peu en question parce que la façon dont Miller voyait le début du monde, le début de la vie sur Terre, on sait que la soupe originelle n'était pas tout à fait comme ça, les conditions climatiques n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et là, il y a une nouvelle hypothèse qui s'est développée qui était l'hypothèse de la panspermie.
Du quoi?
La panspermie.
OK.
L'hypothèse de la panspermie, c'est que la vie a été amenée de l'espace.
Uh-huh.
Donc, et là, ça ferait de nous des extraterrestres quelque part. Donc, une météorite.
Des enfants.
Ouais, des enfants. Donc, quelque part, une météorite contenant des acides aminés ou les premiers éléments, les premières briques de la vie seraient tombées sur Terre et dans une sorte de soupe chimique aurait réussi à reprendre vie et à se développer. Donc, c'est cette hypothèse de la panspermie qui était, bien sûr, on a l'impression que ça sort tout droit d'un roman de science-fiction. Et pourtant, depuis quelques années, c'est une expérience de plus en plus, à tout le moins une hypothèse, de plus en plus favorisée par la communauté scientifique.
OK, mais c'est quoi le rapport entre la météorite et les extraterrestres?
Et là, il y a des scientifiques de l'Université McMaster au Canada qui ont fait une étude et qui ont démontré, en fait, que cette hypothèse d'une vie venue de l'espace est beaucoup plus vraisemblable que celle que l'on croyait être une vie apparue sur la Terre. Donc, quelque part, nos ancêtres seraient des petits microbes extraterrestres.
Ah! Là, tu viens de nous avoir.
Voilà.
OK.
Donc, quelque part, on peut dire que dans le cosmos, on partage peut-être...
Quelle différence ça fait? On a des extraterrestres d'un côté et des vies extraterrestres.
Ouais, voilà.
Des...
Donc, oui, là, maintenant, okay. Les scientifiques arrivent en disant, bon, toute cette hypothèse-là de le panspermie, que l'on croyait être un modèle plutôt chaotique, en regardant les données de base maintenant que l'on a sur la soupe originelle, sur les conditions climatiques de la Terre, il y a 1 milliard d'années, l'apparition d'acides aminés aurait été trop complexe sans l'intervention de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce météorite qui serait tombé quelque part dans la mer, qui serait tombé là où il y avait des sources d'eau chaude et qui aurait permis cet échange chimique qui, éventuellement, a créé la vie qui est apparue sur la Terre.
OK, mais ça, c'est intéressant.
Oui, voilà, parce
que... Je ne connais rien là-dedans, mais je trouve que... Parce que ça... Je peux voir la vraisemblance d'une hypothèse comme celle-là, parce que c'est le processus scientifique est le même. On commence avec des acides aminés.
Oui, absolument.
Mais la question est de savoir, est-ce qu'elles ont été produites sur Terre
de façon spontanée?
Voilà. Ou encore, elles seraient arrivées par...
De l'espace.
Oui.
Et
ouais.
Là, c'est vrai qu'on a des...
Et on n'est pas obligé de se rendre jusqu'aux extraterrestres pour ça.
Non. Non, mais on fait quand même intervenir l'espace et le cosmos.
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'on s'est aperçu au cours des dernières années, en faisant des relevés, par exemple, sur des satellites ou des vaisseaux spatiaux qu'on avait envoyés dans l'espace, notamment pour la station orbitale, on s'est aperçu que des acides aminés ou des microbes, des micro-organismes réussissaient particulièrement à survivre dans des conditions extrêmes comme celles de l'espace.
Mm-hmm.
Donc, il n'est pas interdit de penser que, quelque part, il y a 1 milliard d'années, un météorite contenant des acides aminés, les premières briques de la vie, soient tombées sur Terre et auraient engendré la vie. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait peut-être partager quelques gènes avec deux ou trois civilisations dans l'univers ailleurs.
Oui, parce que c'est ça. S'ils sont venus d'ailleurs, il faut voir de quel ailleurs.
Voilà. Donc, voilà. On serait parti des mêmes briques, des mêmes fondements de la vie.
Intéressant.
Excessivement intéressant parce que moi, je me rappelle... Évidemment, on remonte à 30, 40 ans. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, et on nous parlait des débuts de la vie. Évidemment, on nous faisait une ligne sur l'hypothèse de la panspermie et on avait 10 cours sur l'expérience de Miller et la façon dont on a recréé la vie en laboratoire. Donc, c'était vraiment l'hypothèse qui était favorisée. C'était cette idée d'une vie, une apparition d'une vie spontanée. Alors que là, maintenant, je pense qu'il va falloir revoir un peu les livres qui concernaient cette biologie ou cette exobiologie, puisqu'on parle de vie extraterrestre.
Alors, pour montrer à nos auditeurs qu'on a vraiment de la suite dans les idées, on va s'arrêter puis au retour, on va parler... De la planète X.
Oui, la planète X.
De la planète X.
Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et sûrement pas la dernière.
Je pensais que tu allais dire, mais ce n'est pas la planète d'où seraient venus les acides aminés.
Ah, qui sait?
Qui sait? Qui sait, les amis? Qui sait? Revenez.
Oui, les extraterrestres sont partout. Revenez. Dans le doute, accusez les extraterrestres.
Tout de suite. Alors, de retour avec nos mythes. Et nos complots,
oui.
Avec Christian Page, la planète X.
Et là, on est vraiment dans une espèce de mythe, en ce sens que la planète X, Bernard, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. J'en ai parlé à plusieurs reprises à ce micro. Et en fait, on en parle depuis les années, le début du 20e siècle. En fait,
on ne parle pas de Pluton, hein, qui a été qualifié...
C'est même pas une planète.
Exact. Alors moi, dans mes cours de géo, c'était une planète. Et à un moment donné, on a décidé que ça n'en était plus une.
Donc, on l'a rétrogradé au rang de planétoïde ou planète naine, mais ce n'est plus vraiment une planète.
Donc, on est tombé de 9 à 8.
À 8 planètes. Donc.
Et là, donc la X, ce serait la 9e.
Ça serait la 9e. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, parce que déjà au début du 20e siècle, alors que les astrophysiciens, les physiciens regardaient un peu la mécanique céleste, on remarquait qu'il y avait des anomalies. Pourquoi, par exemple, les planètes sont orientées de telle ou telle façon? Pourquoi Vénus tourne-t-elle en sens contraire des autres planètes? Donc, on se posait des questions comme ça. Il y avait comme des anomalies dans la mécanique céleste. Alors, on s'est dit, il y a peut-être une planète qu'on n'a pas encore vue qui existerait, la mystérieuse planète X. C'est d'ailleurs l'idée de cette planète X qui a permis la découverte de Pluton. Hein, en 1930, il y a un scientifique, Clyde Dobog, qui s'intéressait à cette idée de la planète X, qui a trouvé Pluton, puis il s'est dit, tiens, la voilà notre planète X. Mais ça n'a pas expliqué les anomalies dans la mécanique céleste. Pluton n'était pas assez grosse pour pouvoir permettre, pour expliquer ces mécaniques-là. Donc, l'idée qu'il doit y avoir encore quelque chose est toujours demeurée omniprésente. Il faut savoir qu'on a, tu l'as mentionné, on a nos 8 planètes. On a la Pluton qui est une planétoïde ou une planète naine. Mais complètement à l'extrémité de notre système solaire, on a une sorte de grand anneau de débris rocheux qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est très, très loin, ça, là. Et là, on s'est dit, il y a une planète là-dedans. On ne l'a pas encore vue, mais elle doit être là. Donc, on revient à cette idée.
Mais là, il n'y a pas Voyageur qui est passé.
Oui,
là.
Mais le Voyageur est passé à travers la ceinture de Kuiper.
Ah, il est passé?
Il est passé au travers. Donc, il est sorti du système solaire. Donc, il s'éloigne. Mais il n'a pas vu la planète X.
Il ne l'a pas trouvé.
Non.
Hein?
Et là, évidemment, c'est quelque chose qui revient. Et c'est assez étonnant parce que cette semaine, l'idée de cette planète X, comme je te l'ai mentionné, elle est toujours omniprésente dans la tête des astrophysiciens parce qu'elle est peut-être la clé de voûte d'expliquer pourquoi il y a des anomalies dans la mécanique des objets du système solaire. Et là, voilà que cette semaine, la NASA annonce qu'elle a non seulement, elle réitère sa conviction que la mystérieuse planète X, et là, entendons-nous, cette planète X serait 3 fois plus grosse que la Terre.
Oh.
Ce serait une planète gazeuse, un peu comme le sont Uranus et Jupiter, et elle serait à peu près, et là évidemment ce sont des chiffres un peu astronomiques, mais serait 1200 fois au maximum de son orbite, elle serait 1200 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, parce qu'on comprend, on est dans une orbite elliptique. Ouais. Et cette planète...
La NASA a dit que ça pourrait
donc
exister.
La NASA dit, oui, je crois que cette planète-là existe. Elle mettrait 20 000 ans à faire le tour du Soleil. Et là, non seulement elle réitère l'idée que cette planète X doit exister, c'est quand même incroyable, Bernard, quand on y pense, on a observé plus de 3 000 exoplanètes, donc des planètes qui gravitent autour de d'autres étoiles, alors qu'on pourrait presque avoir une planète géante dans notre propre système solaire, qu'on n'a pas encore observé. Et là, la NASA annonce, elle dit, non seulement on y croit toujours à l'existence de cette planète X, mais voilà qu'on vient de développer une espèce de modèle théorique qui va permettre de la chercher.
Un modèle mathématique.
Modèle mathématique, on s'est dit, bon, si elle existe, elle provoque tel ou tel mouvement, elle agit de telle ou telle manière sur les autres corps célestes. Donc, on arrive à... On va peut-être arriver avec ce modèle-là à se projeter pour dire où doit se trouver la planète X et la regarder, donc l'observer. Et ça, on va entreprendre dès le mois prochain les premières tentatives pour essayer de localiser la mystérieuse planète X.
Oh boy.
Ça serait une véritable révolution astronomique que de découvrir dans notre propre système solaire une planète importante, presque aussi importante en fait que ne l'est la Terre, même si on parle ici d'une planète gazeuse, et on parle quand même d'une planète trois fois de la dimension de la Terre.
Ouais,
écoute,
mettez-vous à vos télescopes et essayez de la trouver. Là.
Oui, ça va être...
Puis au lieu de l'appeler planète X, on lui donnera votre nom.
Oui, c'est ça. Hein? Et c'est assez amusant parce que... Écoute,
la planète Page.
Oui.
Du nom de Christian Page.
Bien sûr.
The Page Planet.
Il y a des corps célestes qui a été nommé une météorite. Pas une météorite, un astéroïde, je crois, qui a été nommé du nom de Leonard Nimoy, qui jouait M. Spock.
Oui, oui.
Donc, on donne des noms comme ça.
C'est l'immortalité assurée, mon cher.
Et tu sais que cette planète-là, la planète X, elle existe. Les astrophysiciens disent qu'elle doit être 10 000 fois moins lumineuse que ne l'est Pluton. Écoute, Pluton, c'est quand même... Faut vraiment avoir des outils astronomiques, des appareils optiques extraordinaires pour voir Pluton de la Terre. Alors, tu t'imagines un corps céleste 10 000 fois moins lumineux que ne l'est Pluton.
Bon, là, il nous reste 2 minutes. Là. Le Stardust Ranch est à vendre pour 5 millions... US.
Voilà. Donc, si tu aimes les phénomènes paranormaux et tu veux en vivre et que tu as 5 millions à investir, Bernard, c'est peut-être la dernière question qui importe.
Ouais. On pourrait commencer par celle-là.
Alors, on veut vendre effectivement le Stardust Ranch.
On pourrait se mettre à gang.
Ben oui, c'est
collecter un 5 millions puis aller acheter le Stardust Ranch. Qu'est-ce que ça nous donnerait, ça, le Stardust Ranch?
Dans la littérature sur les phénomènes paranormaux, où il y a des lieux comme ça qui semblent être de véritables pépinières à des phénomènes paranormaux. Aux États-Unis, il y avait le Skinwalker Ranch, qui existe toujours, et il y avait le Stardust Ranch. Et là, voilà que le propriétaire du Stardust Ranch, John Edmunds, qui est propriétaire depuis une vingtaine d'années de l'endroit, a décidé de le vendre. Et à l'écouter parler, il y a des phénomènes paranormaux qui se produisent sur ce ranch-là pratiquement au quotidien. Donc, le ranch serait hanté. On parle bien sûr de phénomènes de fantômes qui seraient dans la maison. On aurait vu autour de la maison des espèces de boules lumineuses. Il y a une quantité astronomique d'apparitions d'ovnis qui seraient survenues sur le ranch, à un point tel que les amateurs de mystères vont jusqu'à supposer que le ranch, que quelque part sur le ranch, il y aurait une espèce de vortex, une porte qui s'ouvrirait sur une autre dimension et qui permettrait comme ça la multiplication de phénomènes paranormaux.
Oh boy.
Avec le plus sérieusement
du
monde, John Edmunds dit que lui-même, un de ses chiens serait mort après avoir attaqué et mordu un extraterrestre.
Ah. Donc,
je vois un certain scepticisme dans ton visage.
Non, pas du tout. Tu te trompes.
En ce moment même, j'ai l'impression que je ne t'ai pas convaincu. Mais ce monsieur John Edmunds raconte même que lorsqu'il a acheté le ranch à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il avait été surpris de voir que l'ancien propriétaire, au lieu d'amener ses effets personnels avec lui, vêtements et meubles, il avait tout jeté dans la piscine. Donc, lui a dû se taper le nettoyage de la piscine. Et visiblement, tous ces objets-là devaient être quelque part maudits.
Bref. Alors, Dieu sait qu'on trouverait pas juste sur le ranch, mais aussi dans la piscine.
Voilà,
pour la modique somme de 5 millions.
5 millions à Bocaye, en Arizona, le Stardust Ranch.
Écoutez,
alors,
pensez à ça pendant fin de semaine.
Absolument.
Là, en écoutant Game de hockey à soir. On en reparlera la semaine prochaine, mon cher Christian Page.
Oui.
N'oubliez pas votre. Faut pas oublier l'émission Mythes et complots avec Christian et Jeffrey Subrani dimanche à 14h.
Oui.
Je vais y arriver. C'est la fin de la semaine. Il est temps qu'elle finisse. Merci beaucoup.